Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de Messe Cinéphilie, spécial Champs-Élysées Film Festival. Alors pour le coup, le festival est terminé, mais j'avais encore deux interviews à vous sortir, donc on a la première, voilà, celle d'Hugo David, qui donc a réalisé le film L'Acteur avec Raphaël Quenard, voilà, et donc l'interview de Raphaël Quenard sortira dans quelques jours, mais donc d'abord on a celle d'Hugo David. Alors je tiens à préciser quand même que j'ai essayé de laisser aussi un maximum, moi, mes réponses, mes réactions, parce que j'ai pas envie qu'en fait que ça soit comme une interview classique, dans le sens où voilà, un journaliste qui pose des questions et bon, bah, la personne qui est interrogée qui répond. Je veux que ce soit vraiment quelque chose d'assez vivant. En fait, je me rapproche plus d'un échange que d'un interview pour moi. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je peux vous dire que les deux ont une vision assez unique sur leur film et c'est assez marrant. Donc, voilà. Donc, je vous invite aussi à écouter celle de Raphaël Quenard qui sortira. Et donc, je vous laisse tout de suite avec l'interview. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et pitcher un petit peu ton film?
Alors, je m'appelle Hugo David. J'ai 22 ans, je sais pas si c'est très intéressant. J'ai 22 ans, je suis auteur-réalisateur et je suis ici avec toi sur ce délicieux rooftop à Paris parce que nous avons été sélectionnés pour le film que j'ai co-réalisé avec Raphaël Quenard qui s'appelle L'Acteur et qui en fait, si je devais le pitcher, est un faux documentaire, mockumentaire, comme tu veux, il y a beaucoup de termes pour décrire ça, mais un faux documentaire sur... le personnage éponyme de Raphaël Quenard, mais qui joue un personnage dans son propre rôle, quoi, et qu'on voit évoluer sur un plateau de cinéma, alors qu'il est complètement, qu'il n'est pas du tout adapté au métier de comédien, alors que c'est sa passion. Je pense que c'est mieux pitché sur le truc du film.
Non, c'est très bien.
Raphaël est un comédien sur un tournage. Personne ne comprend pourquoi il est là. D'ailleurs, personne ne le comprend vraiment. C'est un peu ça.
Du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être devenir réalisateur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de comment t'en arrives à faire du cinéma?
Alors, bah, le parcours, il est un peu typique, mine de rien. C'est-à-dire que dès le bac en poche, je me suis retrouvé dans une école de cinéma. Donc je sais que c'est difficile, c'est pas forcément accessible. C'est des écoles pour la majorité qui sont privées, sauf si t'es pris dans les écoles publiques. Néanmoins, moi, j'entends quand même pas mal de gens raconter que c'est pas nécessaire. Si t'arrives à faire 100, tant mieux pour toi. Mais tout n'est pas acheté, loin de là. Ne serait-ce que... En fait, là, si, par exemple, si je te la fais courte, comment ce film, il est né? Il est né parce que je faisais le documentaire, le making-of, pardon. Je faisais le making-of du film Chien de la casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand. C'est comme ça que je me suis retrouvé à rencontrer par hasard Raphaël Quenard qui jouait dans ce film et que le film est né. Sauf qu'en fait, Jean-Baptiste Durand, je l'ai rencontré comment? Parce que c'était mon professeur quand j'étais à l'école et qu'on est devenu plutôt amis quand même et qu'il y a une relation de confiance qui est née entre nous. Et c'est comme ça que tu te retrouves sur un film. Mais en fait, c'est très triste à dire. Mais si j'avais pas fait cette école, j'aurais pas rencontré ce réalisateur. Et donc, je serais pas arrivé sur... C'est compliqué d'arriver sur un plateau de tournage quand on n'a pas fait d'école. Il y a tellement d'écoles aujourd'hui que... Voilà, si vous pouvez vous en passer, tant mieux. Après, je pense que c'est aussi important de savoir ce que tu veux faire comme cinéma. On a tendance à tout mettre dans le même panier, mais moi, par exemple, je fais beaucoup de documentaires. Ça me passionne. Le documentaire, il te faut une caméra, du son, un micro HF éventuellement. Et puis, c'est à peu près tout, quoi, en réalité. Ce qu'il faut après, c'est des rencontres que tu vas faire, mais des rencontres qui ne sont pas liées forcément à ton école. C'est-à-dire, comme on parlait de Pacific Club, c'est typiquement né de la rencontre de ce personnage qui a une histoire que tu veux raconter, quoi. Donc, je pense qu'il faut savoir identifier ce que tu veux faire précisément, et à partir de ça, c'est sûr que parfois c'est mieux de faire une école privée, ouais, même si c'est un budget.
Et il y a une chose précise qui t'a donné envie de faire du cinéma, ou c'est juste un truc progressif, ou t'es allé vers ça en fait naturellement?
Alors c'est pas du tout le genre de réponse qu'on a l'habitude d'entendre, je pense.
Tant mieux.
Et en fait, moi j'étais un peu perdu après le bac. J'avais demandé, mon premier choix c'était d'aller en fac d'éco. Voilà, j'ai pas été pris en fac d'éco. Pourtant j'étais fort en éco, hein, mais... Bon, Parcoursup, tout ça, et mal pour un bien, je suppose, parce que le plan B, bizarrement, ça n'a jamais été mon plan A, mais le plan B, c'était le cinéma, c'est quelque chose qui m'attirait, et où j'avais la sensation que je pouvais trouver un truc à faire là-bas, et j'espère qu'aujourd'hui c'est le cas, mais en fait, ouais, c'est bizarre, ça a été un plan B plutôt. Mais après, bon, évidemment, tout de suite, dès que je suis rentré dans l'école de cinéma, c'est aussi pour ça que c'est pas mal, c'est que moi, j'avais une culture du cinéma qui était relativement limitée quand même. Je pense que j'avais découvert le cinéma d'auteur, le mot cinéma d'auteur, je l'ai découvert un an avant d'entrer dans l'école, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de m'entourer de gens avec lesquels tu apprends très vite, et puis de te développer une culture, toi, de ton côté. Et puis dans une école de cinéma, mine de rien, il n'y a pas vraiment d'archétype, donc tout le monde a sa culture, et très vite, tu te retrouves à, sans le vouloir, absorber la culture des autres. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, tu mets le doigt de pied dans l'engrenage, quoi, et après, c'est fini. Et évidemment, là, le cinéma, je ne vois pas ce que je voudrais faire d'autre dans la vie que ça, quoi.
Tu l'as dit, vous l'avez fait sur le tournage de Chien de la Casse. Voilà, c'est un film où il y a l'équipe du film, notamment les acteurs et les réalisateurs qui participent, qui jouent dedans. Comment ça s'est fait, ça, cette idée de les intégrer?
Alors, l'anecdote de la création de ce projet, elle est quand même assez sympa. C'est-à-dire que moi, à la base, je fais le making-of du film, donc je me retrouve avec une caméra. Bon, Raphaël Quenard, pour ceux qui le connaissent ou qui connaissent tout du moins son personnage médiatique très réputé, c'est un personnage qui aime la gaudriole, qui aime l'humour, qui est généreux. Donc moi, forcément, avec ma caméra de making-of, très vite, je vais vers lui parce que j'ai un client, quoi. J'ai un bon client et je le sais. Et en fait, au fil du truc, on finit par devenir amis quand même, relativement vite, parce qu'on a le même humour et que du coup... ça nous amuse, et puis en fait, toutes ces impros qu'il fait devant la caméra à répétition, on se retrouve, à avoir un personnage qui se dessine, c'est-à-dire qu'on commence à échanger, et finalement, il finit par me dire, faisons un film ensemble, faisons un vrai objet. Et moi, j'étais pas chaud. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, des fois dans la vie, on est un peu teubé. Mais j'étais pas chaud, je me disais, non, moi, il faut que je fasse le making-of, c'est ma mission, je fais le making-of, je voulais pas faire autre chose, quoi. Et c'est lui qui, à un moment, pour m'accorder une interview pour le making-of, m'a dit à une seule condition, je fais ton interview que si on fait un film ensemble, quoi. Et donc j'ai fini par dire oui un peu sous la contrainte. Et évidemment, après, c'était la régalade et on s'est beaucoup amusé. Mais ouais, tout ça pour dire que ça s'est fait naturellement. Et même moi, je pense que j'étais pas encore assez naturel. Donc je vous dirais, même si t'es là pour faire un making-of, s'il y a un comédien avec qui tu t'entends bien, qui est un très bon comédien qui veut faire un film avec toi, t'es obligé de dire oui. Et ça, c'est des opportunités dans la vie, il n'y en a pas 10 000, alors il faut les saisir, quoi.
Et ça doit être une question que t'as souvent, en tout cas, mais c'est quoi la part d'impro sur le film? Est-ce que vous avez écrit quelque chose avant, ou est-ce que juste c'était rec et...
Alors en fait, ouais, ça me fait penser, j'ai très mal répondu à ta question précédente. C'était comment est-ce que le réalisateur, les acteurs ont fini par être intégrés dans le film? Et bien en fait, si on prend l'exemple de Jean-Baptiste Durand, qui est donc le réalisateur de Chien de la Casse, mon ancien professeur, et dans le film, l'acteur, il joue son propre rôle de réalisateur, quoi, qui joue à la perfection. En fait, jusqu'au dernier jour du film, il n'était pas... jusqu'au dernier jour du tournage de Chien de la Casse, on n'avait pas encore filmé avec lui. Et c'était la pause du midi de son dernier jour de tournage, hein, de son premier long-métrage. Et en fait, il a appris qu'on fait ce petit truc tous les deux, et il insiste absolument pour venir jouer dedans, quoi. Et il a carrément pris du retard après sur son après-midi, parce que, et en fait, heureusement qu'il nous a demandé ça. Une fois de plus, je me rends compte que j'ai eu pas mal de chance sur toute la ligne, parce qu'en fait, j'ai pas de pif, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est les gens qui doivent insister pour m'offrir leur performance, parce que Jean-Baptiste Durand, il est aussi comédien, c'est un très bon comédien. Et en fait, dans le film, ça se voit pas, mais il y a pas mal d'improvisation. Et après, il y a pas mal de séquences avec lui aussi qu'on a retournées dans l'année qui suivait, pour en fait écrire au montage le film, quoi. C'est ça aussi l'avantage d'un dispositif comme le nôtre, et même du documentaire, c'est qu'en fait, si t'as qu'une caméra et que tu filmes tout seul, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à faire du doc ou de la docu-fiction quand tu veux commencer au début. T'identifies une séquence qui te manque, bah tu sors dehors, t'appelles ton pote et tu la tournes, quoi. Donc ça, c'est super pratique. Et en fait, même les autres comédiens, on avait écrit des petits trucs pour eux, mais ils ont été super, les autres comédiens de Chien de la Casse, Galatea Bellucci, Anthony Bajon, étaient partants pour nous rejoindre aussi, faire une apparition dans l'acteur. Enfin, en fait, ça s'est fait hyper naturellement, parce que, en plus, c'est l'équipe d'un petit film, mine de rien, d'un film à taille humaine, Chien de la Casse. Donc, il y avait déjà, l'équipe était très soudée, et en fait, ce petit film qu'on faisait en parallèle, très vite, c'était une sorte de... secret de polichinelle, et puis les gens, ça les amusait de se laisser tenter, quoi. Donc voilà, je pense que ça s'est fait vraiment organiquement de A à Z. Si on parle de la partie tournée sur Chien de la Casse, et après, derrière, bon, bah là, c'est un an de réécriture, de tournage et de montage. Je sais pas combien de temps il a duré le montage, mais c'est... Il y a peut-être 15 heures d'image pour faire 25 minutes
ah oui,
de
d'accord.
film.
Okay.
Parce que, en fait, c'était les images que je tournais aussi pour le making-of, quoi. Donc c'est surtout du montage, mais ça, voilà, ça coûte rien, il faut juste un ordi, la patience, et puis voilà.
Du coup, vous avez commencé en novembre 2021, c'est ça, sur le tournage de Chien de la Casse?
Tout à
ça
fait.
s'est fini vers...
Alors, je pense que le tournage, après, on a retourné en l'été 2022. Et le montage, je pense qu'on l'a fini en novembre 2022, donc un an plus tard. Et après, il y a l'étalonnage, il y a le mixage, il y a les sous-titres, le DCP, tous ces trucs-là. Je pense que vraiment, je pense que le film, il s'est fini il y a une semaine, hein, sans mentir. Le régler les derniers problèmes de sous-titres, de DCP, etc. C'est... Mais bon, on est là, on est arrivé à l'heure, je pense. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais en fait, c'est pour ça que je dis bien identifier tes besoins quand tu veux commencer à faire des films. C'est que quand t'es jeune, et bah certes, t'as pas une équipe de tournage sous la main, tu peux pas claquer des doigts et avoir une boîte de prod, c'est sûr. Ce que t'as, c'est quoi? C'est du temps, quoi. Donc en fait, base-toi là-dessus. Et moi, je pense que la première ressource de ce film de l'acteur, autant pour Raph que moi, c'est le temps qu'on a passé dessus, quoi.
Du coup, comme son nom l'indique, c'est un film qui parle de la figure de l'acteur, qui vient aussi la tourner un petit peu en ridicule. Je crois que c'est Jean-Baptiste Durand dans le film qui dit que Raphaël Quenard, c'est un peu la caricature de l'acteur raté.
La comédien raté, ouais.
La comédien raté, ouais, c'est ça. Donc pourquoi justement avoir choisi de tourner ça en dérision et pourquoi avoir justement associé cette caricature à Raphaël Quenard?
En fait, déjà, il y a un truc qui est que faut pas oublier que ce film, la matière première, c'est vraiment Raphaël Quenard, tu vois.
Il est à l'écran plus de 90%
lui,
du temps.
Et puis en fait, tout ce qu'on construit, t'as beau avoir une réécriture au montage, t'as beau échanger avec lui pendant le tournage, en fait, c'est ce qu'il te donne. Bon, après, il te donne 15 heures. C'est quelqu'un de très généreux pour réduire les 15 heures. Mais en fait, ça part forcément de là. Donc je pense que déjà, il y a dans le film, il a infusé ce truc de Raphaël Quenard. Là, aujourd'hui, c'est un comédien qu'on va voir partout. Il y a un an et demi, deux ans, c'était un peu moins le cas, mais il avait déjà cette image du drôle d'oiseau, quoi. Et en fait, là où je l'admire, c'est qu'il arrive à mettre le doute à tout le monde, dans le court-métrage et en dehors, dans la vie. Et en fait, quand tu le connais bien, c'est quelqu'un de brillant, mais je suis assez admiratif de comment il instrumentalise sa propre image. Et ça marche pas mal. Mais du coup, je pense qu'il y avait, même inconsciemment, dans l'idée de faire un film sur lui, de jouer avec cette image qui trimballe du gars complètement fou, quoi. Et après, comme je le disais hier aussi, l'inspiration commune d'où part tout le truc, c'est Striptease, l'émission Striptease de la RTBF.
Que je tu vois ce pas que pour c'est le coup, mais non, pas du tout.
Alors là, il faut absolument regarder, les gars, c'est sur YouTube. En fait, c'était une émission, je te dirais peut-être des bêtises, mais genre, je pense, des années 90-2000, tu vois. Et c'était une émission de la RTBF, donc la télé belge. Et en fait, c'est des documentaires, des reportages sur des gens fous. Mais vraiment complètement fous. Bah, ceux qui connaissent Striptease, vous savez de quoi je parle. Les autres, vraiment, allez regarder. Et des gens qui sont complètement fêlés. Mais en fait, au lieu de les filmer comme si c'était tellement vrai, tu vois, l'émission, il y a une sorte de tendresse à l'égard de ces malades mentaux. Mais c'est des gens qui sont complètement fous et qui sont antipathiques pour beaucoup, tu vois. Mais c'est accepter que le gars peut être une merde, que le gars a des idées de merde, que sa vie c'est de la merde, et qu'en fait c'est magnifique, tu vois. C'est l'acharnement de ces gens qui rend à chaque fois systématiquement le film beau, et Striptease réussit le tour de force de faire en sorte de rendre ces gens beaux et ridicules à la fois. Et donc ça, c'était vraiment notre référence, et c'est un peu ce qu'on a gardé comme un mantra tout le long, c'est-à-dire que ce personnage, ouais, il est complètement ridicule. Ouais, on joue de l'image que Raphaël Quenard peut avoir en la tirant à l'extrême, bien sûr. Mais en fait, ça parle d'un mec déterminé. Et même le côté sérieux du film sur la place de l'incompréhension, des drôles d'oiseaux, justement. Je pense que là aussi, c'était une volonté plus ou moins consciente, mais sincère de notre part et de sa part à lui. Je pense que ça lui a permis aussi à lui d'à la fois tirer à l'extrême l'image du côté négatif qu'il a, mais aussi de montrer le positif de ce que lui il peut apporter, tu vois.
Ouais, du coup, tu l'as dit, c'est quand même rempli de second degré, d'autodérision, etc. Mais en général, c'est des procédés qui sont utilisés avec comme une part de vérité. Quelle est la part de vérité là-dedans?
Je pense que c'est même pas trop du second degré. Je pense que l'objectif, c'est ce que j'appelle le premier degré et demi, tu vois.
Ouais.
C'est de mettre un vrai doute. Et en fait, même dans le film et sa genèse, en fait, t'as beaucoup de moments dans le film, plutôt les intermèdes, c'est des vraies images du tournage que j'ai prises pour le making-of à la base. Mais je veux dire, il y a des moments où Jean-Baptiste, le réalisateur, qu'on voit s'énerver au combo, il s'énerve vraiment au combo.
D'accord,
il sait pas que je le filme. Il y a des moments où je filme Raph faire des trucs bizarres, une sorte de grimace. Il ne sait pas que je filme. Donc en fait, même jusqu'au sein de l'objet en lui-même, au-delà de sa signification, tu vois, il y a déjà une... Tu ne pourras pas dire précisément à chaque fois ce qui est... Il y a des trucs, évidemment, on sait que c'est joué, mais il y en a, c'est moins évident, et ça, ça se retrouve à tout niveau, autant dans la forme que dans le fond, je pense.
Et justement, bah, c'est intéressant que tu parles de la forme, parce que du coup, comme tu l'as dit, c'est un faux documentaire. Ouais. Donc la ligne entre fiction et documentaire n'a jamais été aussi fine. Est-ce que toi, tu penses que c'est un film qu'on peut prendre premier degré? Est-ce que vous avez voulu jouer avec ça? Est-ce que, voilà...
Non, honnêtement, je ne pense pas. J'ai eu une remarque hier, quand même, dans la salle d'un... Je sais pas si t'étais là hier.
J'ai dû partir, j'avais une séance après, mais...
Bon, t'as bien fait, c'était pas si intéressant. Non, mais j'ai eu une remarque d'un gars qui m'a dit qu'il était pas content parce que pendant la moitié du film, il a cru qu'on se moquait d'un handicapé, quoi.
Oh la vache.
Donc, ça, en fait, déjà, je l'ai transmis tout de suite à Raphaël et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire parce qu'il arrive quand même à continuer de tromper les gens avec son numéro très habile, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a quelques personnes qu'on peut se laisser au début surprendre, mais c'était pas la volonté de qu'à la fin du film, tu puisses te dire que c'est faux. Au tout début, on laisse planer un léger doute et encore. Mais en fait, si on voulait vraiment faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire ce goût de l'absurde poussé à l'extrême, fallait faire le deuil du côté réaliste. Et en fait, je pense que c'est pas grave, parce que dans le film, t'as des séquences, tu sais que c'est faux. Et puis, même si tu as des séquences où tu sais que tu regardes un film qui est faux, d'un coup, tu vas avoir une séquence où le personnage est plus crédible et où là, tu peux te poser la question, est-ce que cette séquence est fausse ou pas, tu vois, plutôt qu'à l'échelle de tout le film. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question un peu.
Si, mais... si, quand même. Mais après, moi, tu vois, c'est ce que tu dis au début. Enfin, je savais que c'était un faux documentaire, mais au début, tu vois, je me dis, quelqu'un qui a pas de contexte, qui connaît pas Raphaël Quenard, il peut avoir le doute, quoi.
N'importe qui le rencontre a un doute au début, je pense, hein, encore aujourd'hui. Mais c'est ça qui est magnifique. Ouais. Bah, un doute pas très longtemps quand même. Mais je rassure tout le monde, il n'est pas aussi fou que dans le film, évidemment. Hein. Il est loin d'être fou même, mais c'est un personnage, ouais. C'est un acteur, mais avec un grand A, tu vois. C'est un mec, il n'a pas besoin de caméra pour jouer. C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est fascinant. C'est ces gens-là qui trouvaient des gens comme ça. Tous les cinéastes qui veulent faire des films pour 0€, il faut juste réussir à trouver un oiseau comme ça. Tu le filmes, tu le lâches pas, tu le filmes 20 heures, t'en montes 10 minutes et puis t'as un film. Après, là, faut savoir que Raphaël, dans ce film-là, il est de A à Z, il supervise avec moi, en fait. Même le montage, ouais, même le montage, évidemment, on est deux, on a tout fait à deux, de A à Z, même les réécritures, etc. C'est vraiment un film 50-50, quoi. Donc lui, il est en contrôle aussi de ce qui se passe et de ce qu'il montre. C'est pour ça que je dis que... Comment dire ? Il se sert comme il faut de ce film, je pense, aussi.
Et pour continuer sur la forme, tu vois, le montage, il m'a un peu fait penser à genre The Office, tu vois, des trucs un peu comme ça.
The Office, référence ultime, évidemment.
Bah, du coup, ouais, c'est quoi tes références, toi, sur ton film, si t'en as, je sais pas si on a des... qui ressortent le plus ou...
Ouais, alors, dans l'exercice, bah, moi, The Office, je pense, c'est ma série préférée. Après, des références visuelles. Je vais pas te raconter des histoires, je vais pas me raconter une vie non plus. C'est un film tourné avec une caméra à l'arrache, ça bouge tout le temps, il n'y a pas le point. Je suis toujours perdu en train de le suivre. Il y a des références visuelles, il n'y en a pas énormément. Mais dans le montage, par exemple, dans ce que tu t'autorises au montage, là, The Office, ça peut être une référence. C'est-à-dire que, par exemple, la séquence où un peu volé, filmé derrière une porte du réalisateur et de sa copine. Tu vois cette séquence ou pas? Quand ils sont sur un canapé.
Oui, oui.
Bon, et bah ça, en vrai, même au tournage, je me souviens qu'on se posait la question, et tu te dis, à aucun moment, les gens vont croire que vraiment, moi, qui fais le making-of, je suis derrière une porte entrouverte avec le micro, et en fait, je pense que ça passe crème dans le film, et ce qui m'a fait me dire que ça passait crème, c'est The Office. The Office, si tu t'arrêtes 30 secondes, dans chaque épisode, t'as des plans. Si t'imagines l'équipe de tournage présente à ce moment-là, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais tu l'achètes. Donc, je pense que... La référence dans le fond, c'était Striptease, et dans la forme, c'était The Office, quoi.
Du coup, pour revenir sur ça, tu l'as dit, tu l'as co-réalisé avec Raphaël Quenard. Lui, il a quand même une double position d'acteur-réalisateur et surtout qu'il est très présent devant la caméra. Voilà, c'est quand même plus ou moins votre premier film à tous les deux, même si je crois que tu as déjà réalisé en école, si je ne me trompe pas.
J'ai déjà réalisé des films et alors lui aussi, il a déjà co-réalisé
Ah, ok,
des
je sais pas,
films.
d'accord. Ok.
Quand il était avec Mille Visages, il me semble qu'ils ont fait des trucs.
Mais du coup, ça s'articulait comment entre vous deux
Des hurlements en permanence. Non, mais c'est vrai, il y a des étapes, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'au tout début du montage, ça va. Quand tu es à la fin, que tu as 40 minutes, c'est qu'il faut que tu descendes à 25, mais que tous les deux, on aime tout ce qu'il y a et qu'on n'est pas d'accord sur les trucs qu'on a identifiés qu'il faut enlever, c'est le marché, hein. C'est vraiment, c'est juste à qui criera le plus fort ou répétera le plus, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ça marche et je pense que c'est important de pouvoir avoir des relations comme ça avec. Si tu fais une co-réalisation avec quelqu'un, il faut que tu acceptes que d'un coup ça puisse, comment dire, pas dégénérer, tu vois, mais ce sera pas toujours très calme. Et du coup, si tu veux co-réaliser un film, assure-toi de le faire avec quelqu'un où il y a aussi une vraie relation humaine, quoi. Parce que si c'est juste professionnel, ça va très vite s'écrouler. Parce que là, au final, on a réussi. Aujourd'hui, on est tous les deux très fiers du film et je pense qu'on est content. De ce à quoi il ressemble, sans souci, personne n'a l'impression d'avoir abandonné son film au profit de celui de l'autre, tu vois.
Mais donc du coup, ouais, c'est ce 50-50, ça s'est retrouvé sur toutes les étapes, que ce soit le tournage, le montage, le post-prod, tout ça.
Ouais, alors le montage, en gros, les premiers gros dérushs, je les faisais moi de mon côté, parce que comme tu t'en doutes, Raphaël est quelqu'un d'assez occupé quand même.
Je me doute ça.
Mais après, ouais, très vite, il était là tout le temps, de A à Z, et c'était une discussion en permanence, hein, ça c'est sûr et certain. Et ce qui est assez admiratif, je trouve, c'est que moi, mine de rien, il me retrouve sur le bas-côté d'un film d'auteur en train de faire un making-of. Derrière, il me dit on va faire un film. Et en fait, à aucun moment, il a abusé de cette position, tu vois. J'ai pas le souvenir à un seul moment qu'il ait pu laisser entendre, tu vois, que de toute manière, son avis allait persister. C'était toujours une discussion plus ou moins véhémente. Mais tu vois, c'était en ça que je respectais énormément ce qu'il a fait. Parce que dans ce milieu, quand même, non pas qu'il soit une grande star, mais moi, je suis personne. Et j'ai l'impression que très vite, tu peux te reposer sur cette sorte de hiérarchie qui s'installe. Et ouais, pour ça, je serais toujours assez admiratif. Il n'est pas tombé dans ce piège. Et au-delà de ça, c'est aussi pourquoi ça s'est bien passé la co-réalisation. Parce que. Là, je te parle des moments à la fin où c'est compliqué, mais en fait, pour que pendant 2 ans on aille dans la même direction, c'est quand même la probabilité, elle est assez folle. C'est qu'il y a vraiment une volonté commune, il y a un langage commun, il y a les mêmes goûts, il y a les mêmes références, tu vois. Et même quand on n'était pas d'accord, je comprenais son avis. Et moi, je pense que Raphaël, ça sera sûrement un jour, en tout cas, ça peut l'être, un très bon réalisateur au-delà d'être un comédien. Il a une vision assez globale du truc. Ouais, franchement. C'est un drôle d'oiseau, mais il est assez fort quand même.
Et tu t'attendais, compte tenu de la jeunesse du film, à ce que ce soit en festival comme ça, que tu sois là à présenter ton film
Absolument pas. Absolument pas. Mais moi, je te dis, je suis le naïf de A à Z. C'est Raphaël, encore qu'en montée, qui me disait, mais tu te rends pas compte, il y a un super film. Et moi, je lui faisais. Pourquoi je lui faisais? Parce que c'était à nouveau la condition. Fallait, je lui avais envoyé, je sais plus quoi, un truc de court-métrage qu'on devait écrire et tout. Et il me disait, la condition, c'est que d'abord, viens, on va au bout de ce truc, quoi. De vraiment, de A à Z, il a dû. Bon, après, il y a un moment, j'ai fini par me rendre compte, en effet, qu'il y avait un film super, quoi. Enfin, super. Qu'il y avait moyen d'en faire un vrai objet avec une proposition. Super, ça, après, c'est subjectif, tu vois. Mais moi, je me suis retrouvé à aimer profondément le film qu'on a fait, c'est sûr. Mais en fait, une fois de plus, c'est lui qui a dû me pousser, quoi. Moi, dans ma tête. En sortant d'école, ça marchait pas comme ça la vie, tu vois. C'était il faut écrire pendant un an, il faut galérer à trouver une prod, après il faut un financement pendant un an. Et là, d'un coup, ce mec qui sort, bam, bam, tournage, 3 semaines, on monte pendant un an, on monte, on écrit et tout. Et on me dit que ça va être un vrai film et qu'il va finir dans des festivals aussi cool que celui-ci. Non, j'y crois pas une seule seconde, tu vois. C'est lui qui sait, hein. En fait, Raphaël, je pense, c'est à la fois ma muse, tu vois. Mon pote, mais c'est aussi mon mentor, mon patron, quoi. Franchement, des fois, heureusement qu'il est là pour insister, quoi. Sinon, moi, je suis à côté de la plaque, j'ai aucun pif, c'est terrible, hein. J'ai pas de pif.
Et ça, je verrai si je le laisse, ça peut faire une petite question un peu en off, mais est-ce que tu penses pouvoir être primé mardi?
Oula! Bah alors déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. Peut-être tu vas pouvoir m'expliquer.
Ouais.
J'ai vu du coup qu'il y avait un prix du public, mais les films, donc les 10 en compétition et les courts-métrages français, sont répartis en deux programmes de 5 films.
C'est ça.
Et du coup, les gens votent à la fin du programme pour un des 5 films qu'ils viennent de voir. Bah du coup, comment tu mets en compétition les deux films qui ont reçu le plus de votes dans les deux programmes, dans les deux moitiés?
Je pense que tu comptes les papiers en fait, tu vois. Parce que nous, ils nous ont donné une feuille avec les noms des 5 courts-métrages et on déchirait le papier de celui qu'on avait le plus aimé. Et
Ouais,
on le
ouais,
mettait dans
ouais.
la boîte après.
Bah, j'ai voté aussi. J'ai voté pour Pacific Club en plus.
Ah!
Voilà. Comme ça, si je perds, je pourrais dire que c'est parce que j'ai pas voté pour mon film. Mais non, non, je vois, mais ça veut dire qu'en fait, c'est un peu injuste comme principe quand même, non? C'est-à-dire que, tu sais, t'as deux films qui polarisent, qui divisent beaucoup plus les votes dans un programme, tu te retrouves handicapé par ça, tu vois.
C'est sûr, mais c'est déjà injuste dans le principe parce que tu sais, enfin, il n'y a pas le même de nombre de spectateurs aux deux séances, etc. Donc,
Et puis non, écoute, je sais pas, un prix. Je pense que ce serait plutôt le plus. La réaction était assez cool hier quand même. En fait, il s'est passé quelque chose, c'est que ce film-là, pendant longtemps, c'est très drôle parce que d'un coup, Raphaël, il le montrait à des gens, mais genre, tu vois, pour parler vulgairement, un peu le gratin de l'humour des idoles à moi, tu vois, qui faisait des retours hyper encourageants ou même à des gens quand même à s'installer. Et donc j'avais ce son de cloche d'un côté. Et puis de l'autre côté, moi, si je le montre, quand je le montre mes potes à qui je l'ai montré, bon, à part certains, mais genre à la majorité, ou ma famille, c'est une cata, tu vois. C'est vraiment, c'est là pendant 25 minutes, ça arrive pas, t'es là en sueur sur ton PC en train de leur montrer ce que tu fais, ils sont là en train dans leur tête, en train de se dire, tu les entends penser, ah, c'est ça que tu fais depuis 2 ans, tu vois. Et donc je me dis, tout le long, j'étais dans ce truc où j'arrivais pas à savoir, j'étais perdu, je me dis, attends, mais est-ce que c'est super ou est-ce que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire? Et du coup, je m'étais dit que bah, bon, bah, voilà, c'est ce film, il sera comme ça, il sera polarisant, tu vois. Et t'en as qui vont. Ce sera parfait dans leur range d'humour, ils vont adorer. Puis t'as le reste qui va être un peu à côté, quoi. Et j'étais vraiment agréablement surpris de la réaction hier, de voir que tout le monde rigolait, quoi. J'ai pas la. C'était, ouais, c'était comme un seul homme, un peu les moments où ça devait rire. J'ai l'impression que c'était tout le monde. Donc ça fait plaisir parce que vu que c'est la première fois qu'on le projetait. Bah, ça y est, je sais enfin qu'il y a des gens qui vont bien aimer, quoi. Mais j'ai eu peur pendant longtemps. Hein.
Bah, c'est normal.
Mais je vous dirai à tous les cinéastes, tous les gens qui veulent faire du cinéma, montrez vos films à votre mère. Ça vous remettra les pieds sur terre très vite. Quand vous avez l'impression d'avoir fait un super film, montrez-le à votre mère, et puis comme ça, après, vous repartez pour 2 mois de montage, vous avez repris confiance, quoi.
Elle a vu la version finale du film, du coup? Qu'est-ce qu'elle en pense?
Elle l'a vu? Ah, mais une cata. Ah, mais après, elle m'a dit. C'est super si ça plaît à des gens, quoi, tu vois. Non, non, mais elle m'encourage et ça, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent comme ça. Parce que tu te rends compte, là, tu leur montres ça fait 2 ans que toi, t'es en galère, que t'es pas payé, que qui te voit aller à gauche à droite, passer ton temps à faire des allers-retours dans toute la France. Tu leur montres le film, ils aiment pas. Faut qu'ils soient bienveillants quand même, tu vois,
Ouais,
pour
c'est clair,
te
ouais.
soutenir. Donc là, j'espère, voilà. Donnez-moi un prix, comme ça je le ramène à ma mère et elle sera rassurée. Elle se dira, bon, ok, ça va. Il a pas fait n'importe quoi pendant 2 ans.
Justement, avant-dernière question, plus bah, revenir sur toi, plus sur ton futur, tu as dit que tu ne devais pas faire autre chose que du cinéma. Est-ce que déjà tu as développé des projets entre-temps et sinon, est-ce que tu as des envies, notamment tu parlais de documentaires, je sais pas, des sujets à exploiter?
Bah, documentaire, là, j'ai trouvé. Je me suis associé avec une boîte de production, donc Actis Production, qui fait du documentaire à Toulouse. Et on est en train de financer un documentaire qui se passe dans un milieu associatif pour les gens en situation de handicap. Donc il y a ça dans les cartons, mais bon, il faut trouver 100 000 euros. Si jamais tu as un auditeur qui a 100 000 sur le PEL qui
Je sais
traîne.
pas si jamais il y en a qui peuvent aider, mais voilà, n'hésitez pas à
Voilà.
me contacter.
Après, non, il y a ça, le documentaire. Après, comme je le disais, c'est pas juste hypocrite. Moi, là, tu vois, demain. Je me lève à 7h à Montpellier, là ce soir je prends un train pour aller tourner tout seul à un truc en kayak pour un documentaire que je suis en train de faire, tu vois. Et en fait, bon bah voilà, t'as une caméra et t'es tout seul et tu filmes plein de trucs et peut-être qu'à la fin il y aura un film, peut-être pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est important de continuer de faire des trucs tout seul. La pire erreur que tu puisses te dire, c'est d'attendre qu'on vienne te chercher, quoi, pour faire des trucs. C'est bateau, hein, tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Et après, sinon, plus généralement, il y a d'autres trucs avec Raphaël qu'on va essayer de faire, de développer. Je pense qu'il y a une envie commune très forte de continuer de travailler ensemble, ça c'est sûr. Donc voilà pour les projets. Mais du coup, si je peux lâcher un Rib ou un Lydia pour le documentaire, si jamais quelqu'un...
Si tu veux, il n'y a pas de souci, au pire, il me contacte moi.
Il mettra dans la description.
Ouais, ouais, si t'as une cagnotte ou quoi, on peut faire ça.
Super.
Bah, merci beaucoup.
Et bah, merci à toi.
Et donc, c'est la fin de cette première interview. Enfin, c'est pas tout à fait la fin, vous allez voir. En tout cas, je remercie Hugo David pour son temps, sa gentillesse et sa bienveillance. Voilà, on s'en est ressorti avec cet échange extrêmement intéressant que je suis très fier de vous proposer. Donc, comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, il y aura la suite voilà, avec l'interview de Raphaël Quenard, donc n'hésitez pas aussi à l'écouter. Et donc je vous laisse avec un petit moment qui n'était pas forcément prévu, voilà, mais c'est juste qu'en fait on discutait du film et Hugo m'a dit bah écoute, en vrai bah, enregistre parce que je pense que ça peut être intéressant, et effectivement ça l'est. Donc je vous laisse avec ce petit échange, et donc je vous dis à très vite pour l'interview de Raphaël Quenard.
T'es pas la première personne à me dire que du coup ils vont voir ce programme pour ce court-métrage, et à la fois c'est très touchant, et à la fois ce qui est super c'est que du coup moi, je pense à d'autres films du programme dans lequel on était, comme Falen, tu vois, Falen ou d'autres. Mais celui-là, il m'avait pas particulièrement marqué parce que je me suis dit que ça m'a marqué ce film aussi parce que je me suis dit que il y avait un éclectisme dans le programme incroyable, quoi. Et moi, je suis ravi de pouvoir voir un film comme Falen projeté avec notre film avec Raphaël, qui est quand même radicalement différent. Et c'est vrai que j'ai pas fait énormément de festivals dans ma vie en tant que spectateur, je parle. Mais parfois, ça arrive que tu aies ce truc où en fait, tu as des programmes trop thématiques. Et en fait, les films se ressemblent et c'est hyper dommage parce que, typiquement, un film comme Invincible qui était projeté en premier, film de genre un petit peu, bon, bah là, la claque, elle est intéressante. S'il y en avait 5 comme ça, le 5e, ça n'a plus le même effet, quoi. Donc, ouais, c'est en ça que je trouve que ce festival était vraiment intéressant à faire. C'est aussi parce que, du coup, j'ai pu voir des films que je ne m'attendais pas à trouver avec le mien et ça fait très plaisir.